France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. La première partie de ces carnets rejoint une actualité, à savoir celle des politiques publiques en faveur des tiers-lieux, ces lieux de vie, de production et de création qui prennent un essor assez considérable. Le Premier ministre avait annoncé il y a 2 semaines l'engagement du gouvernement en faveur de ces écosystèmes solidaires responsables. Et cette décision fait suite au rapport réalisé par l'association France Tiers-lieux, dont le président est notre premier témoin. Dans le Puy-de-Dôme, nous rejoindrons Sébastien Crépieux, président d'une jeune entreprise qui participe à une petite révolution agricole. Elle s'appelle Inverse et elle prône l'entomoculture, autrement dit l'élevage d'insectes. Explication à suivre tout à l'heure.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Patrick Lévy-Vetz, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'association France Tiers-lieux. Je suis ravi qu'on puisse enfin avec vous, un organisme qui, non pas contrôle, mais essaie de donner la photographie exacte de la réalité des tiers-lieux dont on parle quasiment tous les jours. À l'antenne, on est incapable de dire le nombre de personnes qui les fréquentent, l'économie que ça engendre, les permanents qui y travaillent, les territoires où l'implantation se fait activement et le chiffre exact des tiers-lieux. Vous le réalisez. Comment vous avez pu relever ce défi d'avoir cette photographie très complète et très détaillée des tiers-lieux en France?
C'est assez simple. Depuis le rapport que j'ai eu l'honneur de remettre au gouvernement en 2018, 2 ans de travail considérable a été fait pour structurer la filière professionnelle, aider à structurer des réseaux territoriaux, à organiser la filière professionnelle, et nous avons mis en place un recensement. 900 tiers-lieux y ont répondu,
oui.
Et donc nous avons une photographie aujourd'hui extrêmement claire de ce qu'est aujourd'hui le phénomène des tiers-lieux et qui nous permet de donner des chiffres tout à fait importants.
Oui, chiffres, donc pour l'année 2021, un recensement donc de 2500 tiers-lieux avec une prévision 2022, fin 2022, 3000 à 3500. C'est pas uniquement la campagne, on le sait, les quartiers aussi de la politique de la ville, quartiers prioritaires en bénéficient. Un tiers des tiers-lieux sont implantés dans ces quartiers prioritaires. Et les activités sont multiples. Mais la question, c'est finalement, qui donne naissance à un tiers-lieu, globalement?
Alors d'abord, c'est hybride, ça peut être très différent, mais globalement, c'est un phénomène d'origine citoyenne. C'est-à-dire, très clairement, ce sont les citoyens, souvent alternatifs d'ailleurs, hein, à la société, qui ont créé, et puis aujourd'hui, sont toujours des collectifs, ou des collectifs en lien avec une collectivité territoriale, ou une collectivité territoriale qui va chercher un collectif de personnes,
oui,
pour bâtir un lieu, ces lieux qui sont aujourd'hui les creusets des transitions, où se cristallisent d'ailleurs les activités de transition, que ce soit transition écologique, transition du travail, transition numérique ou transition de l'apprentissage par le faire. Donc c'est un mouvement citoyen d'abord, c'est l'expression au fond de ce que la société est en train de fabriquer et d'une aspiration des citoyens à prendre leur destin en main, à co-construire, à être acteurs de la vie de la cité et donc de l'activité qu'ils ont envie de réaliser.
Ce ne sont pas des 20 mots, parce que je veux donner quand même des chiffres sur ce que vous rapportez, Patrick. 150 000 personnes y travaillent quotidiennement. C'est un chiffre d'affaires cumulé de 248 millions d'euros. Vous dites bien que c'est un moteur principal de relance économique des territoires. Alors vous avez remis il y a quelque temps le rapport annuel au Premier ministre, Nos territoires en action. Qu'en attendez-vous?
C'est assez simple. Le gouvernement et l'État, comme les collectivités territoriales, prennent acte de ce mouvement de société qui est un phénomène de société probablement le plus important depuis l'émergence de l'éducation populaire ou des maisons des jeunes et de la culture au moment de l'émergence de la société des loisirs dans les années 60. Donc autrement dit, c'est un phénomène auquel personne ne se soustrait, ne peut être ignorant. Et donc nous avons mis en place et demandé, et ça se met en place d'ores et déjà, une politique publique importante, politique qui doit être coordonnée, qui n'est pas des politiques publiques par ministère. Deuxièmement, que l'État intervienne en soutien, pas en normalisation, en appui, pas en décision, et surtout facilite le développement des activités à l'intérieur des tiers-lieux. D'où les annonces qui ont lieu sur la formation professionnelle, avec énormément de moyens autour de la formation dans les tiers-lieux, avec les naissances des manufactures de proximité, qui sont des ateliers partagés qui permettent à des artisans et des indépendants de pouvoir travailler sur des machines mutualisées, d'où les moyens qui ont été mis sur les réseaux, la structuration des réseaux, tout ça pour favoriser le développement des activités d'hyper-proximité et des activités locales. Mmh. Et c'est le cœur du rapport que nous avons remis et de l'ambition que nous avons, c'est de démontrer qu'en réalité, il y a une économie territoriale, une économie locale, qui a un avenir formidable en hyper-proximité, tout simplement parce que vous favorisez les circuits courts, et la crise du Covid a montré l'hyper-efficacité de ces structures.
Absolument, qui ont répondu pour la plupart. 9 tiers-lieux sur 10 sont restés mobilisés pendant cette crise sanitaire, et plus 400 tiers-lieux y ont participé, que ce soit dans la fabrication de visières, de masques ou de pièces, de respirateurs. Le site, si vous voulez avoir le détail de l'association qui anime ce réseau, qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est france-lieu.fr. Merci Patrick.
Merci à vous, à bientôt.
France Inter, carnet de campagne.
En Charente-Maritime, où nous attend le jeu, on ne parle pas d'OSS 117, mais d'OSS 17. OSS pour Oléron sous le soleil, une société citoyenne de production d'énergie renouvelable. On avait parlé, on avait dit deux mots à sa création. Elle fait suite à un appel de projet de territoire énergie positive pour la croissance verte. Le programme engagé est audacieux puisqu'il vise une production d'énergie 100% renouvelable à l'horizon 2050. Et le choix s'est porté sur le photovoltaïque. Les premiers toits ont été équipés sur l'île d'Oléron. Et comme toutes les sociétés conçues par les habitants, chaque particulier peut entrer dans le capital aux côtés des entreprises, des collectivités. On fait appel aussi aux bénévoles, aux bonnes volontés, et également aux propriétaires qui sont prêts à accueillir du photovoltaïque sur leur toit. La société a obtenu l'aide de l'association À nous l'énergie renouvelable et solidaire, qui accompagne les programmes de production énergétique à La Rochelle et en Onis Atlantique. Pour les deux, vous allez trouver des liens à nos pages d'émission. Sébastien Crépieux, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sébastien, vous avez créé en 2018 Inverse, vous êtes président de cette jeune start-up. C'est 2 ans de recherche avant que Inverse voit le jour.
Tout à fait, oui. Le projet Inverse date vraiment d'un changement de réglementation européenne qui permettait d'autoriser les insectes pour remplacer les farines de poisson.
Oui.
Donc à partir de là, ça fait tilt. Hein. Je travaillais beaucoup en agriculture sur la durabilité des filières. Et je me suis dit, si on veut vraiment créer de nouvelles filières durables, l'insecte peut en être une partie, en tout cas la solution.
Oui. Alors, avec vous, on va parler d'entomoculture. L'entomoculture, c'est l'élevage d'insectes à destination de l'alimentation humaine ou animale, ou même de la recherche scientifique. Vous, vous êtes parti sur quel insecte et que va-t-il produire ?
Alors nous, on est parti sur le ver de farine, donc dont le nom scientifique, c'est Tenebrio molitor. C'est un insecte qui est présent dans toute l'Europe, qu'on appelle aussi le ténébrion meunier, parce qu'il était beaucoup présent autour des meuneries. Donc dès qu'il y avait un peu de grain moulu, il y avait cet insecte-là. Et il a un intérêt, c'est qu'il est capable de transformer, de valoriser très bien des déchets ou des coproduits agricoles. Alors un de ses aliments de choix, c'est le son de blé, donc ce qui reste quand vous faites une farine blanche. Et lui, il est capable de très bien le digérer et très bien le transformer en protéines de très bonne qualité.
Alors, j'explique, parce qu'on comprend la filière et c'est très intelligent, parce qu'on est dans une économie circulaire. C'est qu'un agriculteur qui va produire son son de blé va pouvoir, à partir de ce moment-là, élever des vers et va pouvoir collecter des déjections qui vont participer à la fertilisation des sols.
C'est exactement ça. Donc l'agriculteur va effectivement cultiver du blé. Ensuite, ce blé va être transformé alors sur d'autres filières pour faire de la farine qui va être utilisée en boulangerie de tout type. Et il va récupérer son sang de blé, effectivement, pour élever ses vers et mettre une nouvelle chaîne de valeur dans ce déchet ou ce coproduit agricole pour faire une protéine de très bonne qualité qui va être ensuite valorisé, utilisé au plus près de lui. Donc là, on travaille beaucoup avec les filières d'élevage locales, oui, notamment la volaille fermière d'Auvergne, par exemple, les pisciculture régionales, pour du coup proposer des substituts protéiques durables à leurs collègues éleveurs.
Oui. Alors ça remplace évidemment toutes les protéines qui sont importées, et on sait qu'elles très souvent elles sont importées d'Amérique latine, on sait le coût, on connaît l'impact environnemental de cela. Donc aujourd'hui, des agriculteurs français vont produire ces protéines à base de verre qui seront proposées à d'autres agriculteurs.
C'est ça, c'est vraiment l'idée, on travaille beaucoup là-dessus. Sur les premières phases, par contre, quand on était sur des petits volumes de production, et c'est toujours le cas, on a développé toute une gamme qui est pour le grand public, qu'on trouve dans les animaleries et les jardineries notamment, donc que ce soit pour les poulaillers familiaux, pour les oiseaux sauvages, pour les chiens, les chats, qui permettent justement de communiquer aux consommateurs toute cette démarche locale et durable autour de cette protéine d'insecte. De dire que demain, le poisson qu'ils vont acheter sur l'étal de leur poissonnier, qui vient des monts du Forez ou qui vient des montagnes alentours, a été élevé avec des insectes produits par des agriculteurs. Voilà, ça, c'est vraiment important pour nous.
Alors, il y a quelques exemples déjà qui sont nés, Sébastien, de propositions de croquettes à base, par exemple, d'insectes déshydratés. Le seul souci, c'est pour le particulier, la différence de prix entre des croquettes traditionnelles pour chats et les croquettes en insectes déshydratés.
Alors, nous, on a essayé d'être dans la gamme de prix de croquettes. Alors, premium, bien sûr, hein, mais pas être déconnecté marché. Ça a été compliqué. On a une formule qui vaut beaucoup plus cher que de la croquette industrielle, même premium. Par contre, ce qu'on a fait, on a développé notre marque. On était obligé d'aller jusque-là. Donc, la marque inverse, de sélectionner tous les ingrédients, de travailler avec un fabricant local. Donc, ça, c'est génial. On est vraiment dans tout le côté très, très local. Et de proposer cette croquette, non pas via des distributeurs, mais directement, à la fois via nos réseaux propres, hein, notre site internet, mais également aux animaleries de la région, ce qui nous permettait de pouvoir garder quand même un prix cohérent à la fin pour le consommateur.
Oui. Alors l'idée, c'est évidemment de développer les points de vente.
Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Alors là, pour l'instant, on s'emballe pas trop sur le développement des points de vente pour ne pas être en rupture, parce que vu qu'on est sur tous les maillons de la chaîne, hein, à la fois en produisant tout ce que vont être les démarrages d'élevage, en choisissant nos agriculteurs et en développant l'outil de production avec eux, chez eux, on restreint pour l'instant, on freine un petit peu les points de distribution pour être sûr que nos clients puissent être approvisionnés, et on a une vision sur les 2 ans à venir justement de l'augmentation de nos volumes de production.
Et pour les agriculteurs, c'est un bon complément rémunérateur.
Ah, c'est très bien. Oui. Tout à fait, oui, on a failli cette filière avec eux dès 2018, ils étaient vraiment inclus au projet de filière, et avec eux, on a défini justement quel serait ce métier, le niveau de rémunération aussi pour ce travail agricole réalisé, et pour eux, donc on a réussi à développer du coup un bâtiment qui leur permet de générer un revenu, donc de pouvoir installer un conjoint, de pouvoir sécuriser eux leur revenu agricole, et pour nous, c'est vraiment extrêmement important dans la démarche inverse.
Et puis un bon début et une bonne nouvelle, c'est encore une économie locale qui prend de l'ampleur avec la start-up que vous dirigez, Inverse, à Saint-Ignat, en Puy-de-Dôme, déjà 12 personnes pour activer Inverse, inverse.fr pour l'adresse. Merci pour votre témoignage, Sébastien.
Merci beaucoup, Philippe.